Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes toujours dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Luc, au verset 19, sur le polycopier qui contient donc les commentaires des pères. Pour le chapitre 16 à 20 de l'Évangile selon Saint Luc, à la page 3, au milieu de la page. Nous commençons ici l'explication de ce qu'on appelle la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. Bon, les pères font tout de suite remarquer que ce n'est pas une parabole, mais véritablement un fait historique. On va voir tout ça. Donc, page 3, verset 16, chapitre 16, verset 19 de Saint-Luc. Il y avait un homme riche qui était venu, vêtu de pourpre et de lin, qui faisait chaque jour une chair splendide. Il y avait aussi un mendiant nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Donc, comme je viens de vous le dire, les pères de l'Église pensent que ce n'est pas une parabole, mais que c'était un cas historique, que ce Lazare a vraiment existé, qu'il aurait été un lépreux, à tel point que les lépreux l'invoquent comme leur saint patron. C'est pour ça qu'on appelait les maisons hospitalières qui recevaient les lépreux des lazarets et que les malades eux-mêmes étaient appelés des lazares. Les prêtres font remarquer que ce pourpre et ce lin sont symboles de richesse, mais de richesse négative, c'est-à-dire en fait symbole du luxe et de l'orgueil. Le lin et la pourpre, disent-ils, dénotent luxe et orgueil, mollesse et caractère efféminé. Le lin est également, attention, dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, le lin est aussi le tissu liturgique qui devrait être utilisé pour les nappes d'autel et le petit linge d'autel, les corporaux, les purificatoires, devraient être faits en lin. Bon, ça devient assez compliqué aujourd'hui de trouver du lin, puisqu'il n'y a plus beaucoup de tisseurs de lin en France, je crois qu'il n'y en a plus qu'un ou deux. Cependant, il serait bon qu'on revienne à ces coutumes d'utiliser le lin comme le matériel à utiliser pour faire les nappes et le linge d'autel, le linge de messe. Pourquoi? Parce que la tradition nous dit que le linceul de Turin était fait justement dans du lin, avec du lin. Et donc, de même que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été placé dans un linceul fait de lin, dans le tombeau, au Vendredi Saint, de la même façon, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur l'autel doit être placé sur un corporal de lin. Verset 21 du chapitre 16. Le pauvre Lazare désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et personne ne lui en donnait, mais les chiens venaient aussi et léchaient ses plaies. Donc ce pauvre était dans l'abjection la plus complète. Il était mourant de faim et vivant dans sa crasse en quelque sorte et sa misère. Voilà donc ce que disent les pères à ce sujet, c'est Saint Jean Chrysostome qui parle. Donc ce pauvre homme, Lazare, tel sujet vient des mots. D'abord une pauvreté telle qu'il ne pouvait pas même obtenir les miettes qui tombaient de la table du riche. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi s'acheter de la nourriture. Il était en plus frappé d'une maladie si grave et débilitante qu'il ne pouvait pas même chasser les chiens qui l'entouraient. Donc la tradition
prétend que Lazare était un lépreux. Et donc, personne n'aidait évidemment les lépreux parce qu'ils avaient grande crainte de la contagion. Les lépreux, vous le savez, étaient obligés de vivre en dehors de la ville, dans des faubourgs de la ville, vivaient loin de la ville en fait, dans la campagne, autour de Jérusalem, ils vivaient dans une vallée complètement isolée qu'on appelait la vallée de la Géhenne. Et lorsqu'ils venaient mendier pour pouvoir vivre quand même, d'avoir un peu de nourriture, ils devaient avoir une clochette autour du cou qui avertissait leur présence. Donc les gens donnaient de la nourriture dans un petit panier, mais se sauvaient vite pour ne pas être contaminés. Il est évident que chez les pères de l'Église, cette lèpre représente le péché. Il y a beaucoup de comparaisons qui peuvent être faites avec effectivement le lèpre du péché et la lèpre maladie. Le péché mortel surtout est représenté par la lèpre parce que la lèpre était une maladie, surtout à l'époque, qui était mortelle et qui apparaît au début de façon imperceptible, simplement des taches brunâtres sur la peau. Et si on ne fait pas attention, on ne se rend même pas compte qu'on a attrapé la lèpre au début. Et ensuite, petit à petit, ces taches vont augmenter en taille, en profondeur, et vont finir par dévorer littéralement les muscles et les os qui soutiennent ces muscles. Et lorsqu'on s'en rend compte, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Ça représente le caractère débilitatif, si vous voulez, du péché qui va affaiblir l'âme, qui sera incapable de se protéger contre le démon. Donc ce pauvre Lazare, nous font marquer les pères, surtout Saint Jean Chrysostome, ici cité, était abandonné de tous, même de ceux qui auraient dû l'aider. C'est-à-dire même, il est tellement isolé qu'il n'a même pas de famille pour l'aider. Ses frères, ses sœurs, peut-être ses parents ne sont pas là pour l'aider. En plus de ça, la vue constante de la félicité de l'homme riche était sujet pour lui d'un mal supplémentaire, car ses peines corporelles et ses douleurs d'esprit furent augmentées par la compréhension que ceux qui jouissaient de tout n'avaient aucune pensée ou considération pour lui. Donc cela montre la différence si vous voulez, de vie qui existait entre le pauvre et le riche. Cette histoire traduit aussi la dureté du riche qui passait près de lui sans même lui parler ou le regarder, et la solitude du malade, car il est bon d'avoir un compagnon dans le malheur. Oui, tout ça représente l'isolation dans laquelle se place le pécheur. Le pécheur est tellement isolé que plus personne n'accepte de l'aider. Passons à la page 4, en haut de la page, continue le texte de Saint Jean Chrysostome. Il dit que ce pauvre homme était le sujet de bien des maux par l'incertitude par rapport au futur, car depuis la venue du Christ, la foi en la résurrection des morts était un merveilleux soutien dans l'affliction. Mais à l'époque, il n'y avait aucune espérance pour ces gens. Ils tombaient donc dans le désespoir le plus complet, parce que non seulement ils étaient rejetés par la société, mais ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance pour le futur. Cela était augmenté encore par la pensée de la constance et de la durée de ces souffrances. Ils savaient que non seulement ils n'allaient jamais guérir, mais que ces souffrances allaient augmenter de plus en plus, si vous voulez, comme un cancer qui progresse continuellement, qui au début est tout petit et puis progresse de façon exponentielle, en doublant de taille pratiquement chaque jour. Et c'est ce qui se passe pour le cancer aujourd'hui. Souvent, on a un cancer au début, c'est un petit grain tout petit qu'on voit à peine perceptible. Et puis, si on ne fait pas attention, ben, ça va se développer très vite. Et lorsqu'on s'en rend compte, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Enfin, nous dit Saint Jean Chrysostome, Lazare, le pauvre Lazare souffrait de la perte de sa réputation, car beaucoup pensaient que ses souffrances étaient une punition directe à cause d'un grand crime. Beaucoup de Juifs pensaient que ces maladies étaient des conséquences du péché. En fait, la maladie représente le péché de façon allégorique. La maladie de l'âme a un nom, ça s'appelle le péché. Cependant, on ne peut pas dire que la maladie soit une conséquence directe du péché de façon habituelle. Certes, il y a des maladies qui sont des conséquences directes de péché, souvent de péché contre nature. On voit très bien avec le cas du sida, par exemple, qui est souvent, peut-être pas toujours, surtout pour les enfants qui attrapent le sida par leur mère, mais souvent le sida est provoqué par des péchés très graves contre nature. De même, certaines maladies vénériennes sont provoquées par des péchés graves contre la pureté. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc on ne peut pas dire, ce qu'on entend parfois, que systématiquement que la maladie est une conséquence du péché. Ce n'est pas toujours le cas. Mais au temps de notre Seigneur, beaucoup de Juifs pensaient cela. Le Père de l'Église fait remarquer donc que ce mendiant, Lazare, ce pauvre, qui était sans doute lépreux, était comme un autre Job, qui portait toutes ses épreuves avec force et un esprit imperturbable. Dieu a voulu donner Lazare, Job, Tobie et certains saints, ici les pères citent Sainte Lydwine, dont les souffrances furent relatées par Cyrus comme des exemples vivants de patience pour tous les malades et les affligés. Sainte Lydwine de Schiedam, qui est une sainte mystique hollandaise, qui est née en 1380 et qui est morte en 1433, qui est la patronne des personnes handicapées. On ne connaît pas beaucoup de choses sur elle. On sait simplement qu'elle était issue d'une ancienne famille noble, mais ruinée, qui était la seule fille d'une fratrie de 10 enfants. Elle était cependant jolie et gracieuse et préféra se consacrer à Dieu et repoussa tous ses prétendants. À l'âge de 15 ans, dit sa vie, explique sa vie, elle est victime d'une chute alors qu'elle patine avec des amis. Elle ne se remettra jamais de cet accident. C'est la raison pour laquelle elle est également patronne non seulement des handicapés, mais elle est aussi patronne des patineurs sur glace. Et elle va passer 38 ans étendue sur son grabat. Malgré ses souffrances physiques, elle se dit néanmoins la plus heureuse des femmes du monde. Et au cours de sa vie, elle va connaître des extases mystiques. Et à partir de 1414, donc jusqu'à sa mort en 1433, à 53 ans, elle ne sera nourrie que de la Sainte Eucharistie. Elle va mourir en 1433, donc ne laissant aucun écrit. Mais le témoignage de ses souffrances transfigurées en amour est source d'un immense bonheur. Elle a été canonisée par le pape Léon XIII en 1890. Elle est fêtée le 14 avril dans le martyrologe romain. Elle n'est pas à l'église universelle, mais elle est vénérée dans les églises locales. Et donc elle est ici représentée comme un exemple de l'acceptation de ses souffrances. C'est pas facile d'accepter les souffrances de la maladie. Peut-être c'est encore plus difficile d'accepter les souffrances provoquées par la pauvreté. J'ai connu des gens qui avaient été ruinés pas simplement dans leur corps, ça c'est assez fréquent, mais également dans leur âme par l'abandon complet, notamment après des accidents. J'ai connu une fois une personne qui est tombée d'un seul coup, quadriplégique, d'un seul coup, il a eu une énorme attaque cardiaque, il est tombé raide, littéralement, complètement paralysé, il va passer la fin de sa vie paralysé, et il a été abandonné par sa femme, qui est partie avec les enfants, ne pouvant pas supporter d'avoir un mari, qui était devenu complètement impuissant et incapable de quoi que ce soit. L'abandonner son mari, eh bien, cette personne avait certainement plus souffert de l'abandon de son épouse que de l'abandon de son corps, que son corps l'avait lâché complètement. Donc on revoit la même idée dans l'histoire de Job, la sainteté, la patience de Job qui est ici illustrée par l'histoire de Lazare le pauvre. Donc allégoriquement, saint Augustin explique que l'homme riche représente le juif orgueilleux, ignorant de la sagesse de Dieu qui voulait établir son propre royaume. Le pourpre et le lin fin sont les grandeurs du royaume de Dieu qui leur seraient ôtées. Donc il y a deux sortes de lin. Il y a le lin matériel qui représente l'orgueil, le luxe, la mollesse, le caractère efféminé, et le lin spirituel qui représente la richesse du paradis, d'après les pères. Le repas somptueux, suivi par le riche, représente, dit saint Augustin, la loi. La loi juive dont ils se vantent et se glorifient en abusant, augmentant leur orgueil au lieu d'utiliser la loi comme moyen de salut. Donc, le repas somptueux représente la matérialisation des promesses de Dieu. C'était l'erreur des Juifs d'avoir voulu considérer uniquement l'aspect matériel des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ pour son peuple et d'avoir complètement oublié les promesses spirituelles. D'ailleurs, le mot Lazare signifie, d'après les pères, assister ou celui qui est dans le besoin. Et ce mot est utilisé pour quelqu'un qui ne peut présumer de l'abondance de ses ressources, qui est donc totalement dépendant. D'après Saint Grégoire, on retrouve la même idée, Lazare couvert d'ulcères. Donc vous voyez, selon les pères, il y a plusieurs idées. Soit les pères considèrent que le pauvre, l'homme riche, pardon, représente le juif plein d'orgueil, qui est ignorant de la sagesse de Dieu. Soit, d'après d'autres pères, c'est une représentation tout simplement du péché en général. Ça dépend des pères. D'après Saint Grégoire, Lazare, lui, qui est couvert d'ulcères, représente au contraire le peuple des gentils. Donc il y a deux peuples en opposition. Le peuple des juifs, représenté en général par l'homme riche, et le peuple des gentils, représenté par Lazare couvert d'ulcères, qui se tournant vers Dieu n'a pas eu peur de confesser ses péchés. On retrouve la même comparaison, si vous voulez, avec les deux hommes qui venaient prier au temple. Rappelez-vous ce qu'explique notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le riche, plein de lui-même, qui vient annoncer devant le temple tout ce qu'il a fait, toutes les grandeurs matérielles qu'il a obtenues. Et puis le pauvre qui reste, le publicain qui reste à l'entrée du temple, qui n'ose même pas rentrer dans l'édifice et qui se contente de dire Seigneur, pardonnez-moi parce que je suis un pauvre pécheur. Et notre Seigneur Jésus-Christ fait représenter, explique que le riche va sortir sans être pardonné, alors que le pauvre va être pardonné, le publicain va être pardonné. Donc le pharisien n'est pas pardonné. Le pharisien, dans ce cas-là, représente la nation juive qui refuse notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pauvre est représenté au contraire les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, qui n'osent même pas se présenter parce qu'ils n'ont pas justement toute la loi derrière eux, mais qui vont être accueillis par notre Seigneur Jésus-Christ et qui vont par substitution prendre la place du peuple juif. J'ai déjà expliqué ça très souvent d'après les pères de l'Église. Les blessures de Lazare, disent les pères, étaient dans la peau, car la confession des péchés est représentée par l'éclatement de ces blessures. C'est-à-dire, c'est le pus qui est contenu dans les furoncles des ulcères. Lazare est couvert d'ulcères, nous dit le texte. Il y avait un mendiant nommé Lazare, au verset 20, qui était couché à sa porte couvert d'ulcères. Donc, ces ulcères représentent les péchés. Il faut que les péchés éclatent pour que le pus puisse sortir, et le pus qui sort représente le démon qui quitte cette âme, et du coup l'âme va pouvoir retrouver la paix avec le bon Dieu. Donc les ulcères qui sont purifiés représentent la purification de l'âme par la confession. Donc Lazare, couvert de plaies, désire se nourrir des miettes qui tombent de la table du riche, mais personne ne lui en donne, car ce peuple orgueilleux refusait d'admettre à la connaissance de la loi n'importe quel gentil. Cependant, les mots de la reconnaissance descendaient vers lui comme les miettes de la table. Et donc, le juif, je veux dire, le riche représente donc le juif qui refuse l'humiliation de l'humanité, de l'incarnation, et qui va finalement crucifier notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas pu accepter le fait que notre Seigneur Jésus-Christ, tout en étant Dieu, ait accepté d'unir sa divinité avec notre humanité par le mystère de l'incarnation. Donc ils vont le crucifier, et du coup notre Seigneur Jésus-Christ va aller chercher le pauvre qui gisait à la porte, au pied de la synagogue, c'est-à-dire le peuple des gentils, qui va prendre la place, c'est l'Église catholique qui prend par substitution la place du peuple juif. Donc d'après saint Augustin, les chiens, on parle ici des chiens, qui venait aussi lécher ses plaies. Ces chiens, d'après les pères, qui lèchent les plaies de Lazare, sont les malheureux qui aiment le péché et qui utilisent leur grande langue pour honorer les mauvaises œuvres que d'autres ont en abomination, les regrettant et confessant leurs péchés. Bon, plusieurs interprétations. D'après les anciens, les chiens qui léchaient les plaies avaient la vertu de purifier les plaies. Parce que les anciens pensaient, je ne sais pas si c'est vrai sur le plan médical, que la bave du chien avait pour effet de favoriser la cicatrisation des ulcères et des blessures. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, c'est pour cela que d'après certains pères, ici c'est Saint Grégoire qui parle, les chiens représentent les prédicateurs. Donc on représente souvent dans la géographie, surtout du Moyen Âge, un chien près du prédicateur, un chien qui lèche les plaies d'un pestiféré, pour montrer que le prédicateur, par sa prédication et par sa sainteté personnelle, doit être l'instrument de la purification des âmes de ceux qui l'écoutent. Donc les chiens représentent les prédicateurs, dit Saint Grégoire, car la langue des chiens est rouge du sang même de vos ennemis. La langue des chiens guérit la blessure qu'ils lèchent. Donc les saints prédicateurs, quand ils nous instruisent dans la confession de nos péchés, touchent de la langue les blessures de l'âme. Donc le prédicateur est comme, si vous voulez, doit purifier, nettoyer la plaie pour que la grâce du bon Dieu puisse descendre dans cette âme. On ne va pas faire descendre la grâce du bon Dieu dans une âme qui est toute sale. Donc il faut d'abord nettoyer l'âme. Une fois que l'âme a été nettoyée, à ce moment-là, elle peut être purifiée par notre Seigneur Jésus-Christ et sa grâce. Il faut d'abord qu'elle soit nettoyée, pardon, et ensuite l'âme peut être, pas purifiée, mais elle peut être, là, une fois qu'elle a été purifiée, elle peut être illuminée par la grâce du bon Dieu. Donc la grâce du bon Dieu représente, si vous voulez, une lumière magnifique qui va rentrer dans une âme. Il faut que l'âme ait été nettoyée avant que la lumière puisse rentrer. Donc notre Seigneur représente, si vous voulez, cette lumière qui va éclairer, mais qui va aussi réchauffer et purifier. Donc purification d'abord, et cette purification entraîne une conversion totale de l'âme. Passons au verset 22 à 24 du chapitre 16 de Saint Luc. Alors il arriva que le mendiant mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli dans l'enfer. Et levant les yeux lorsqu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit: Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoyez Lazare afin qu'il trempe l'extrémité de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté par cette flamme. Entre autres, à cause de ce texte, que le paradis était souvent appelé par les anciens le sein d'Abraham, sein Sein. Le sein d'Abraham, c'est-à-dire le lieu de la miséricorde, c'est la signification de ce terme. On appelait également, parfois, chez certains, au Moyen Âge, on appelait aussi les limbes des patriarches le sein d'Abraham. Les limbes des patriarches, c'était la salle d'attente, avant l'arrivée de notre Seigneur et sa résurrection, la salle d'attente pour tous les justes de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de justes dans l'Ancien Testament qui étaient morts en état de grâce. Hein. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ se disait fièrement fils de David. Il y avait tous ces grands, grands saints de l'Ancien Testament. Je pense à Abraham, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, tous ces grands prophètes, mais qui ne pouvaient pas aller au ciel après leur mort parce que les portes du ciel étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Et donc, ils devaient attendre dans une salle d'attente dont on ignore pratiquement tout et que certains anciens appelaient le Saint d'Abraham. Donc, ça peut représenter soit le paradis en puissance, soit le paradis en acte, selon les pères. Donc, comme les enfants, disent les pères, reposent tranquillement dans le sein de leur mère, ainsi les fidèles sont appelés enfants d'Abraham, eux qui excellent en foi et en sainteté, ils recevront réconfort et rafraîchissement dans le sein d'Abraham. Oui, on ne pense pas assez, au moins dans l'Église romaine, peut-être pas, on a moins la dévotion pour ces grands, grands saints de l'Ancien Testament. Peut-être plus de dévotion pour les saints de l'Ancien Testament dans l'Église orientale. Imaginez un peu la sainteté d'un Abraham, d'un saint Abraham. En plus de ça, ces saints avaient beaucoup plus de mérite parce qu'ils n'avaient vu aucun des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient avant les grandes prophéties de l'Ancien Testament. Donc ils étaient tout à fait au début de l'histoire du peuple élu dans l'Ancien Testament. Et donc avaient énormément de mérite d'avoir conservé la foi. En plus de ça, la plupart du temps, ces grands patriarches vivaient entourés de païens. Abraham venait je crois, d'Ur, en Chaldée, donc entouré de païens, de polythéistes qui adoraient les animaux, adoraient le soleil, adoraient les arbres, les pierres, etc. Et malgré le fait qu'ils vivaient avec une contamination autour d'eux épouvantable, ils ont réussi à conserver la foi au Dieu unique. Et c'est la grandeur, par exemple, d'un grand, grand patriarche comme Abraham. Un autre grand modèle qu'on a, par exemple, c'est aussi le modèle de Moïse. Et de ces grands mystiques comme Saint Élie, Saint Élisée, Saint Daniel, Saint Ézéchiel, etc. Saint Zacharie, Saint Ézéchiel, oui, qui ont fait des choses extraordinaires, mais qui sont, dont, si vous voulez, les noms sont peu cités dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Il faut garder ces noms en mémoire. D'ailleurs, dans le Martyrologe, qui est le livre qui contient la liste de tous les saints canonisés par l'Église, on a régulièrement les noms des prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, on va voir les noms même des petits prophètes qui sont canonisés par l'Église, pour la plupart d'entre eux. Donc nous avançons, versets 22 à 24. Il arriva que le mendiant mourut, fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc là, j'ai déjà expliqué. Le riche mourut aussi et fut enseveli dans l'enfer. Et levant les yeux, lorsqu'ils étaient dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, s'écriant: Dites, Père Abraham, ayez pitié de moi et envoyez Lazare afin qu'il trempe l'extrémité de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté par cette flamme. Donc là, on voit déjà l'apparition, une des multiples allusions au feu de l'enfer. Hein? N'oubliez pas que l'existence de l'enfer est un dogme de foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ a parlé directement ou indirectement, je crois que c'est 63 fois de l'enfer dans les quatre évangiles. Donc il est deux fois que l'enfer existe. Il est deux fois que toute personne qui meurt en état de péché mortel ne pouvant aller au ciel va tomber en enfer. Il est aussi deux fois qu'il y a en enfer la peine du damné. La peine du damné, c'est-à-dire l'absence de Dieu, et la peine d'essence, l'existence d'un feu réel, physique, en enfer, mais un feu capable de brûler les âmes sans les consumer. Par contre, ce qui n'est pas de foi, c'est le lieu où est l'enfer. L'enfer existe, ça c'est sûr et certain, mais où est-il, on ne sait pas. L'Église aussi refuse de donner des noms pour des gens qui sont en enfer, sauf par tradition. Judas, évidemment, à cause de la phrase de notre Seigneur, il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Et aussi, la tradition, les pères parlent de Caïn, le frère d'Abel, qui, à cause du fait qu'il ait assassiné son frère, serait en enfer. Mais on ne peut pas donner de nom. Par contre, ce qui est aussi de foi, c'est ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus, à cause des textes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parlent d'une voie large qui mène à la perdition et d'une voie étroite et resserrée qui monte au paradis. Donc, on a beau tourner les textes dans tous les sens, l'Église a toujours enseigné, et les textes liturgiques eux-mêmes parlent d'un grand nombre de ceux qui sont, beaucoup sont appelés, peu sont élus, c'est-à-dire du plus grand nombre relatif des gens qui sont damnés, hélas, par rapport aux gens qui sont sauvés. Cependant, on ne peut pas donner de proportion ni de nombre, bien entendu, pas donner de nombre, on ne peut pas donner de proportion exacte, mais il est certain, surtout aujourd'hui, que, hélas, l'immense majorité, la majorité des gens, hélas, doit se damner à cause de l'ambiance générale du monde moderne. Bon, quelle est cette proportion, on ne sait pas, mais rappelez-vous ce qu'ont dit les pères, hein, et les grands saints, pensez par exemple à la petite Jacinthe de Fatima, même si elle n'est pas canonisée par l'Église, qui parlait des âmes qui tombaient en enfer comme le flocon de neige en hiver. Ça laisse quand même assez sérieusement rêveur. Donc il faut penser à tout cela. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même parle de ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Ça veut dire quoi, petit nombre relatif des élus? Ça veut dire que le nombre des élus est très grand, mais le nombre des élus par rapport au nombre de ceux qui sont tombés en enfer est petit. Il faut faire un petit peu attention à la façon dont on prêche ça pour ne pas tomber dans le désespoir. Cependant, l'Église a toujours enseigné ce petit nombre relatif des élus. L'enfer est évidemment nié aujourd'hui par l'Église de Vatican II. Bergoglio, son complexe, a nié l'existence de l'enfer, s'opposant à 20 siècles de tradition d'Église. D'après certains pères, certains docteurs, c'est une pensée consolante qu'on a le droit d'avoir, ils estimaient qu'au siècle de foi, par exemple au Moyen-Âge chrétien, je pense au 12e, 13e siècle, quand on avait comme chef d'État en France un saint comme Saint-Louis, la plupart des gens se sauvaient, je veux bien le croire. Bon, mais être sous Saint-Louis, c'est pas la même chose que d'être sous Macron. Hein. Comment voulez-vous que les gens puissent se sauver sous Macron? Bon Dieu, bien sûr, plein de miséricorde, rattrape certaines personnes, mais qui, comment et dans quelles conditions, c'est littéralement du domaine du miracle. Que quelqu'un puisse aujourd'hui sauver son âme, ça devient presque miraculeux. Bon, évidemment, faire attention à la façon dont on parle de ça pour ne pas tomber dans une espèce de rigorisme ou de jansénisme, littéralement. Loin de nous l'idée de l'hérésie des glaces, parce que la miséricorde de Dieu est grande, mais la quantité de péché est égale, était malheureusement encore plus grande. Dieu peut exercer sa miséricorde, c'est vrai, mais il exerce sa miséricorde à l'égard du pécheur repentant. Dieu ne peut pas exercer sa miséricorde à l'égard d'un pécheur qui ne regrette pas son péché. C'est du bon sens absolument élémentaire. De même qu'on ne peut pas demander à une mère de famille de ne pas pardonner à son petit enfant qui fait des bêtises, tant que son enfant qui fait des petits vols, par exemple, portefeuille de sa maman, tant que l'enfant n'a pas arrêté de voler. Une fois qu'il a arrêté, la maman doit pardonner, mais tant qu'il n'a pas arrêté de voler dans le portefeuille de sa mère une pièce tous les matins, il est évident que ce serait non pas un acte de miséricorde de la maman pour la maman de pardonner à son fils qui continue de voler, mais un acte de faiblesse. Or, Dieu n'est pas faible, il est plein de miséricorde, sa miséricorde est infinie, mais elle ne peut s'exercer qu'à l'égard du pécheur pénitent. Et c'est une très grave erreur de penser que la miséricorde de Dieu peut s'exercer aussi à l'égard d'un pécheur qui refuse de se convertir. Dieu ne peut pas exercer sa miséricorde à l'égard du pécheur impénitent. Il pardonne, même à des très gros pécheurs, on le voit avec saint Augustin, on le voit avec sainte Marie-Madeleine, et il va lui pardonner tout de suite. Il va pardonner à saint Pierre, il va pardonner au manque de foi des apôtres. Après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur pardonne aux pécheurs repentants, mais il ne pardonne pas aux pécheurs qui refusent de changer. Donc, sinon, si on ne parle plus de la justice, on ne peut pas séparer la justice et la miséricorde. C'est comme les deux doigts d'une même main. Il faut aussi comprendre une chose qui est très importante dans ce domaine-là, c'est que la miséricorde de Dieu ne peut s'exercer qu'ici-bas. Une fois qu'on est passé, qu'on a quitté le temps pour passer dans l'éternité, la mort, c'est ça, la mort, c'est le passage du temps dans l'éternité, avec l'exception du purgatoire qui, lui, est dans le temps. Une fois qu'on est mort, qu'il y ait séparation entre l'âme et le corps, on est passé dans l'éternité. Qui dit éternité dit absence de passage de la puissance à l'acte, donc absence de mouvement possible. Une fois qu'on est au ciel, on est au ciel pour toute l'éternité. Une fois qu'on est tombé en enfer, malheureusement, on est en enfer pour toute l'éternité, puisqu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps parce qu'on est dans l'éternité, justement. La mort, c'est le passage du temps à une éternité. Soit une éternité malheureuse en enfer, soit une éternité de bonheur au ciel. Bon, il y a l'exception, il y a deux exceptions. La première exception, c'est le purgatoire, qui lui est dans le temps. Et une deuxième exception, qui était également dans l'éternité, et qui est l'exception du limbe, des limbes pour les enfants morts sans baptême. Un enfant mort sans baptême, un bébé mort sans baptême, ou un adulte qui n'a jamais eu l'usage de la raison à cause d'une malformation intellectuelle ou psychologique, eh bien, ne peut pas voir Dieu puisqu'il n'est pas baptisé. S'il n'est pas baptisé, il ne peut pas voir Dieu à cause du péché originel. Cependant, il n'est coupable d'aucun péché personnel, donc il ne va pas aller en enfer. Comme il est coupable d'aucun péché personnel, il ne peut pas aller en enfer, mais il ne peut pas aller au ciel parce qu'il y a le péché originel qui est en lui, et il va être donc dans un lieu qu'on appelle les limbes, sur lequel on ignore pratiquement tout, sauf l'existence des limbes, qui a toujours été enseignée par l'Église. On ignore le lieu de ces limbes, on ignore exactement ce qui se passe dans les limbes, mais Dieu, dans sa miséricorde, ne révèle pas à ceux qui sont dans les limbes des enfants morts sans baptême son existence, à ces âmes qui ignorent tout de Dieu, qui, ignorant tout de Dieu, ne souffrent pas de l'absence de Dieu. C'est évident que dans l'église de Vatican II, non seulement Bergoglio nie l'existence de l'enfer, mais il nie aussi, bien sûr, l'existence des limbes, parce qu'ils ont complètement perdu la foi. Donc, reprenons un petit peu ce que disent les pères. Comme les enfants reposent tranquillement dans le sein de leurs parents, ainsi, dans le sein de leur mère, ainsi les fidèles sont appelés enfants d'Abraham, et ils recevront donc dans ce lieu réconfort et rafraîchissement. Lazare était pauvre et méprisé sur la terre, mais deviendra honoré et riche au paradis, car il endurera avec patience tous les maux. Ensuite, nous avons un texte de Saint Jean Chrysostome, en bas de la page 4. C'est du vol, dit Saint Jean Chrysostome, de garder ce que nous avons reçu et de refuser aux pauvres une participation de notre abondance. Donc au jugement, les mauvais verront les justes en repos. Ça, c'est le jugement général dont il est fait question. Les questions ici. Les mauvais verront les justes en repos et seront tourmentés par leur bonheur, alors que les justes, en voyant les malheurs des maudits, seront tout en joie de voir comment ils ont été préservés de ces maux par la miséricorde divine. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas en joie à cause de la souffrance des damnés, pas du tout. Ils seront en joie de voir à quel point Dieu a exercé sa miséricorde à leur égard. Si quelqu'un meurt à l'état de grâce, c'est par la miséricorde du bon Dieu. Si quelqu'un meurt à l'état de péché mortel, c'est par la justice de Dieu. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a exercé, apparemment en tout cas, plus sa justice avec certaines personnes et plus sa miséricorde avec d'autres. C'est un grand, grand mystère. Ça, c'est un mystère indicible qu'il faut méditer de loin et pas trop s'en approcher, parce qu'on n'a pas de réponse ici-bas sur la terre, sans tomber dans le désespoir, désespoir le plus complet. Faire attention à ce sujet-là, mais bien réaliser qu'il n'est pas possible pour moi de rester en état de grâce sans une grâce toute particulière du bon Dieu. Et que si d'autres personnes que moi avaient commis les mêmes péchés que moi j'ai commis dans le passé, ben peut-être que ces personnes auraient été condamnées, et moi je ne suis pas encore condamné. Avec la grâce du bon Dieu, ben je peux peut-être vivre en état de grâce et être un jour au paradis. Il y a beaucoup de gens qui sont en enfer certainement et qui ont commis, peut-on se dire, qui ont certainement commis moins de péchés mortels que ceux que j'ai commis dans le passé. Alors pourquoi ces gens sont-ils en enfer? C'est la justice de Dieu qui a prévalu. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en enfer? C'est la miséricorde de Dieu qui a prévalu avec moi. Et pourquoi est-ce que ces gens pourquoi est-ce que le bon Dieu a utilisé davantage apparemment sa justice avec quelqu'un d'autre et sa miséricorde avec moi? Ça, c'est le mystère. Il faut tomber à genoux et remercier le bon Dieu. Et loin de nous l'idée du fatalisme qu'on retrouve de façon épouvantable chez les musulmans. Les musulmans sont complètement fatalistes, ils ont cette formule, c'est écrit, donc on ne peut rien changer. Les hindouistes sont aussi fatalistes. Et c'est aussi un thème difficile à traiter, le thème de la prédestination, un thème difficile qu'il faut traiter avec grande prudence dans la façon de l'aborder, surtout pour les fidèles, pour justement nous empêcher de tomber dans le découragement plus complet. Je vous rappelle qu'il y a des saints qui ont failli perdre la foi, notamment Saint François de Sales et Saint Vincent de Paul, parce qu'ils pensaient trop à ce mystère de la prédestination. C'est un mystère. Dieu sait par avance si vous et moi, nous allons être sauvés. Puisque pour Dieu, il n'y a pas de passé et de futur, il n'y a qu'un éternel présent. Donc Dieu sait quand je vais mourir, si je vais mourir en état de grâce, ou si je vais mourir en état de grâce, ou si je vais mourir en état de péché mortel. Dieu sait si je vais passer du temps en purgatoire, si je vais pouvoir aller directement en enfer, si je vais tomber directement en enfer, ou si je vais aller au paradis. Il le sait, mais moi je ne le sais pas. Donc Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas avertir les gens de ce qui va se passer, pour justement respecter le libre arbitre des gens. C'est là tout le mystère de l'association entre le libre arbitre, libre acceptation de la grâce du bon Dieu, à toute puissance de la grâce. La grâce du bon Dieu est toute puissante, mais en même temps, il respecte notre libre arbitre. Donc je continue avec ces textes en bas de la page 4. Donc, nous serons tout en joie au moment du jugement général de voir comment nous avons été préservés par la miséricorde de Dieu, de tous ces maux, par la miséricorde de Dieu. Donc, un jugement sans miséricorde sera le lot de ceux qui n'ont pas su pratiquer la miséricorde sur la terre. Et là, on touche encore une fois un grand, grand mystère. Donc, encore une fois, Dieu ne peut exercer sa miséricorde que dans le temps. Ne peut plus exercer sa miséricorde, parce qu'exercer la miséricorde, ça veut dire faire changer une âme d'un état, la faire passer d'un état à un autre état. Donc c'est le passage d'un puissant, de puissance à l'acte, c'est ce qu'on appelle le mouvement. Il ne peut pas y avoir de mouvement dans l'éternité, puisqu'il n'y a plus justement l'éternité, c'est l'absence de temps. Et il faut du temps pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il y ait passage d'un état de péché mental à l'état de grâce, il faut du temps, il faut l'exercice de la miséricorde. Pour qu'on puisse se convertir, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut du temps d'abord, parce qu'on ne se convertit pas en 5 minutes. Il faut être vivant, parce qu'une fois qu'on est mort, on a quitté le temps, justement, on est passé dans l'éternité, on ne peut plus changer. Puis il faut la miséricorde du bon Dieu. Donc ici-bas, nous avons la grâce de Dieu, nous avons le temps, nous avons la miséricorde du bon Dieu. Mais après la mort, on n'est plus dans le temps, donc il n'y a plus l'exercice de la miséricorde. Donc rappelons-nous cette phrase des Pères, un jugement sans miséricorde sera le lot de ceux qui n'ont pas su pratiquer la miséricorde sur la terre. Alors, sachez répondre aux modernistes qui prétendent que nous manquons de miséricorde en parlant de l'enfer. C'est les cris d'Orphée, les cris de putois des modernistes qui disent comment pouvez-vous imaginer un Dieu plein de miséricorde qui envoie ses créatures en enfer? Mais ce n'est pas Dieu qui envoie les créatures en enfer, c'est les créatures qui s'envoient elles-mêmes en enfer. Au moment de la mort, on verra notre âme telle qu'elle est en réalité devant Dieu. C'est comme quelqu'un qui va d'un seul coup voir la couleur de son âme devant un miroir. Imaginez quelqu'un qui a jamais vu la couleur de son âme et qui d'un seul coup voit l'espèce de miroir spirituel et voit la réalité de la couleur de son âme. Et s'il est en état de péché mortel, il va être affolé. On raconte que c'est une. J'explique souvent ce passage je crois que c'était avec la reine Victoria d'Angleterre, qui était une grande persécutrice des catholiques, et qui avait dit au moment de son couronnement, dit à Dieu, donnez-moi 40 ans de règne, je me passerai de votre royaume. C'est terrible, mais Dieu l'a prise au mot, elle a eu, je crois, 42 ans de règne. Et elle était entourée de mignons dans son palais. Et pour pas se voir vieillir, elle avait interdit l'usage du miroir dans son palais. Il n'y avait pas de miroir dans le palais pour qu'elle ne puisse pas se voir, mais se voir mourir, se voir vieillir. Et donc, elle n'avait pas la possibilité de se regarder dans un miroir. Et sur ses vieux jours, alors qu'elle était devenue Décatie, elle demandait toujours à ses mignons, est-ce que je suis toujours aussi belle qu'avant? Et les mignons, évidemment, répondaient, ces hommes qui étaient perdus de mœurs, répondaient toujours, mais oui, vous êtes toujours rayonnante de beauté. Puis un jour, sur ses vieux jours, elle a demandé à demander un miroir. Alors c'était la panique dans tout le palais, parce qu'on savait très bien les conséquences. Elle a exigé d'avoir un miroir. On lui a dit, mais il n'y a pas de miroir dans le palais. Allez m'en acheter un, je veux un miroir, me voir dans un miroir. Et l'histoire dit qu'un des serviteurs, tout tremblant, lui a présenté un miroir. Et lorsqu'elle a vu l'état de décomposition littéralement dans lequel elle était, décomposition physique littéralement, à cause de ses péchés d'impureté répétés, puis à cause de son âge très 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 avancé, elle a poussé un cri d'horreur et elle a fait couper la tête à tous ces millions qui étaient autour d'elle, qui lui avaient menti pendant toute cette période de temps. Alors, où est-ce que nous en sommes? À la page 5. Oui, c'est ça. En haut de la page 5, verset 25 du chapitre 16. Abraham lui dit, mon fils, souvenez-vous que vous avez reçu les biens pendant votre vie et que Lazare a reçu de même les maux. Or, maintenant, il est consolé et vous vous êtes tourmenté. Notons avec les pères que Lazare est réconforté à cause de sa patience et de sa bonté, qui ne furent pas récompensés en cette vie, alors que le riche est tourmenté à cause de ses péchés qui ne furent pas punis en cette vie. Dire, Dieu a manifesté sa miséricorde également à l'égard du riche, qui malheureusement n'a pas voulu en profiter. Il n'a vu que la partie matérielle des dons de Dieu, à oublier la partie spirituelle et donc à mépriser cette miséricorde. Et donc Dieu était prêt à exercer sa miséricorde à l'égard du riche tant qu'il était vivant, afin de le pousser à utiliser ses richesses pour aider les pauvres. Il a refusé et puis il meurt. Mais une fois qu'il est mort, eh bien, il sort de la miséricorde et donc il ne peut plus rien faire pour lui et va être condamné aux affres de l'enfer. Et on le voit très bien. Au verset 22, le riche mourut et fut enseveli dans l'enfer. Dieu, dans sa justice, donne ses bénédictions célestes aux élus, disent les pères. Mais des bienfaits terrestres aux méchants et à ceux qui ne connaissent pas. Dieu, dans sa justice parfaite, ne permet pas que un verre d'eau donné à un pauvre soit laissé sans récompense. Mais comme il sait que celui qui n'ira pas au paradis ne pourra pas recevoir une récompense céleste, Dieu va donner à ces personnes une récompense ici-bas. Vous avez parfois des bandits, des escrocs finis qui peuvent avoir une certaine charité purement naturelle. Je pense à un bandit comme Bill Gates, par exemple, qui peut-être, dans certains cas, même s'il le fait pour des raisons financières, peut-être s'occuper des pauvres en Afrique, par exemple. Bon. S'il va faire creuser un puits à ses frais ou aux frais de ses associés en Afrique pour donner de l'eau à un village, c'est un acte de charité purement naturel. Bon. Le problème, c'est que lui, il le fait certainement avec une mauvaise intention, mais enfin, c'est quand même en soi un acte de charité naturelle. Dieu ne laissera pas M. Bill Gates sans récompense pour cela. Et s'il sait que Dieu sait tout, que M. Bill Gates se moque complètement de Dieu et manifestement ne se préoccupe pas du tout du salut de son âme, et s'il ne se convertit pas, risque pas d'aller au ciel, eh bien, Dieu va récompenser M. Bill Gates ici-bas par des biens matériels, et Dieu sait s'il en a. Mais il ne faut pas croire, justement, c'est le problème avec les protestants. Les protestants pensent que l'amour du bon Dieu ici-bas sur la terre se manifeste par les choses matérielles. C'est une réflexion que j'entendais tout le temps aux États-Unis. Regardez, nous sommes bénis de Dieu, la preuve, tous nos magasins sont pleins de victuailles. Donc on est bénis de Dieu. Et c'était Carol Robinson qui faisait remarquer, ne remerciez pas Dieu, remerciez le démon. Parce que c'est le bon Dieu qui vous donne ses biens, qui vous donne l'abondance, mais c'est le démon qui nous pousse à mal utiliser cette abondance. Il est évident qu'il est très difficile pour quelqu'un qui vit dans l'abondance de sauver son âme. Il n'est pas strictement parlant impossible pour un riche de sauver son âme, mais c'est très difficile. D'ailleurs, il y a peu de saints parmi les gens très riches. Il y en a eu. Il y a eu des saints rois, des saintes personnes qui ont eu une grande richesse. Mais en général, ces saints rois ou ces saintes personnes qui ont une grande richesse matérielle ont donné toute leur richesse aux pauvres au cours de leur vie. Ils sont morts pauvres comme les blés en général. Ainsi donc que celui qui reçut sur terre des richesses et des honneurs craigne d'en être privé dans la vie à venir, au contraire que ceux qui n'ont pas connu les joies de ce monde les attendent au ciel. C'est la phrase qu'on trouve dans l'évangile, je crois que c'est de Saint Luc, qui dit que nous serons dans la tristesse et le monde se réjouira. Bon, ici-bas, les gens qui suivent notre Seigneur, qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ, sont dans la tristesse par rapport au monde et le monde se réjouit. Mais au moment de la mort, ce sera l'inverse. Au moment de la mort, les gens qui meurent en état de grâce se retrouveront dans une joie indicible et éternelle, alors que les gens du monde, qui eux au contraire ont profité des biens de ce monde ici-bas sans se préoccuper des biens spirituels, seront se retrouver dans la tristesse la plus complète. Donc attendons non pas les joies de ce monde, mais attendons les joies du ciel. Les joies de ce monde, elles ne durent pas, alors que les joies du ciel, elles durent. Avançons, versets 26 et 27 du chapitre 16 de Saint Luc. De plus, dit Abraham, entre nous et vous, un grand abîme a été établi, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là, venir ici, ne le peuvent pas. Le riche dit, je vous supplie donc, père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, etc. On va voir ça après. Et donc on voit bien que les âmes qui sont tombées en enfer sont sorties de la miséricorde de Dieu. Donc Dieu ne peut plus rien faire pour une âme qui a quitté le sein de sa miséricorde. C'est ça qui est terrible avec les gens de l'enfer. Les gens qui sont en enfer ne font plus partie de l'Église. Il y a trois parties dans l'Église. une partie au ciel, ce qu'on appelle l'église triomphante, une partie au purgatoire, l'église souffrante, et une partie ici-bas, sur la terre, l'église militante, l'église des soldats. Mais les gens qui sont en enfer ne font pas partie de l'église. Quand on parle de l'église souffrante, c'est l'église du purgatoire. L'église du purgatoire est dans le temps, c'est un lieu de préparation, un lieu de purification avant d'aller au ciel. Très bien, c'est une antichambre du paradis en quelque sorte. Mais par contre, l'enfer est hors de la miséricorde. C'est pour cela que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là venir ici ne le peuvent pas, dit l'Évangile. Vous qui êtes au milieu de l'enfer, dit Saint Bernard, vous espérez votre salut qu'il fallait gagner au cours de votre existence terrestre. Mais comment pouvez-vous imaginer au milieu des flammes éternelles que vous puissiez obtenir votre pardon alors que le temps du pardon est passé ? Donc le temps du pardon est passé parce que le temps de la miséricorde est passé. Pardon, miséricorde, c'est un peu deux synonymes. Il n'y a plus d'offrande pour le péché, pour vous qui êtes morts dans le péché. C'est pour ça qu'il est de foi que toute personne qui meurt en état de péché mortel tombe en enfer. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je viens d'expliquer, la mort c'est le passage du temps dans l'éternité. Une fois qu'on est passé dans l'éternité, il n'y a plus de changement possible. Si quelqu'un meurt en état de grâce, il va garder cet état d'amitié avec Dieu pour toute l'éternité. Mais si quelqu'un meurt dans l'état de haine de Dieu, c'est le cas des personnes qui meurent dans l'état de péché mortel, il va être obligé de garder cet état de haine de Dieu pour toute l'éternité. Un démon en enfer ne regrette pas d'être en enfer dans le sens qu'il ne regrette pas son péché. C'est évident que si les démons pouvaient regretter ses péchés, Dieu, la miséricorde de Dieu pourrait s'exercer. Mais il ne peut pas parce qu'il n'est plus dans le temps. N'étant plus dans le temps, il ne peut plus changer ses pensées, il ne peut plus changer son état, et donc il n'a aucun regret de son péché. Il se complaît, en quelque sorte, non seulement dans ses péchés, mais il ne cherche qu'une seule chose, il n'a que de la haine pour ceux qui peuvent aller au ciel. Donc il va tout faire pour empêcher les âmes d'aller au ciel. Le Fils de Dieu, dit Saint Bernard, ne sera pas crucifié de nouveau. Il est mort et ne meurt pas de nouveau. Son sang qu'il a versé sur la terre ne coule pas en enfer. Vous pouvez prétendre l'utiliser pour éteindre les flammes qui vous tourmentent. Une faute d'orthographe ici qu'il faut que je corrige. Éteindre les flammes représente la miséricorde. La miséricorde ne peut pas exister chez Dieu après le passage du temps dans l'éternité. C'est vrai que la miséricorde de Dieu s'exerce au purgatoire parce que précisément dans le purgatoire, on n'est pas dans l'éternité, pas encore, on est dans le temps. Quand une âme est dans le purgatoire, elle y est pour un certain temps. Et là, Dieu peut exercer sa miséricorde. Notre Sainte Vierge Marie peut exercer elle aussi la miséricorde de son divin Fils. Pourquoi ? Parce que la Très Sainte Vierge Marie, par ses prières, peut obtenir un allègement des âmes du purgatoire, des souffrances des âmes du purgatoire. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les défunts de nos familles. C'est pour ça que l'Église, pendant la Sainte Messe, prie justement pour les différentes âmes du purgatoire, les âmes du purgatoire, justement en appliquant par voie de suffrage le sang qui est répandu sur l'autel de la messe sur les âmes du purgatoire. C'est la meilleure façon d'aider les âmes du purgatoire, c'est certainement d'offrir le sacrifice de la messe pour les âmes du purgatoire. Moi, j'éprouve toujours une grande joie de pouvoir célébrer la messe pour les âmes du purgatoire, ce qui m'arrive assez souvent. Beaucoup de gens demandent des messes pour des défunts qui sont dans le purgatoire. Alors souvent, on me pose la question, même monsieur l'abbé, si l'âme pour laquelle je prie, je fais prière demandant une messe pour tel membre de ma famille qui est décédé, je fais demander une messe pour cette personne, je demande une messe pour le repos de cette âme, et qu'est-ce qui va se passer si cette âme est là, c'est en enfer? Mais Dieu va appliquer cette messe pour quelqu'un d'autre selon sa vie, selon sa volonté. Et qu'est-ce qui va se passer si cette âme est déjà au ciel? Eh bien Dieu, encore une fois, va appliquer cette messe pour une autre âme. Ou Dieu qui pour lequel il n'y a pas de futur, si vous voulez, c'est un éternel présent en Dieu, puisqu'il est Dieu. Dieu savait de tout temps que telle messe allait être demandée pour telle âme, un temps T dans le futur, et que donc il va utiliser en avance les fruits de cette messe qui sera dite plus tard, en quelque sorte, pour cette âme. C'est ça le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de messes qui sont célébrées, de messes valides, quand on très difficile de donner un nombre. Mais quand on pense au nombre de messes valides qui sont célébrées tous les jours dans le monde aujourd'hui, mais c'est ça laisse rêveur. Quelques milliers peut-être, mais guère plus. Il y a combien de prêtres, en comptant même les prêtres qui célèbrent la messe validement, mais unacum, hélas, il y a combien de messes valides? Si en plus on comprend que une messe célébrée en union avec Bergoglio ne peut pas plaire à Dieu, ben ça réduit encore le nombre de messes qui plaisent à Dieu. Donc s'il fallait essayer de voir quels sont le nombre de messes offertes, des messes par des prêtres validement prêtres et qui offrent la messe non unacum, en n'étant pas union avec un hérétique notoire comme Bergoglio, alors là on tombe à quelques centaines, ça laisse rêveur. Et ça explique pourquoi le monde va de mal en pis. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus de messes qui sont célébrées. La quantité de sang humain répandu sur l'autel est inversement proportionnelle à la quantité de sang divin qui est répandu sur l'autel. Il n'y a plus de messes qui sont célébrées. La nouvelle messe n'est même pas une messe, c'est une espèce de repas. L'immense majorité des prêtres modernes ont été ordonnés avec un nouveau rite d'après 68, avec des évêques eux-mêmes consacrés évêques avec le rituel de 68. Donc vraisemblablement, ils ne sont ni prêtres ni évêques. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de messe du tout. Il n'y a pratiquement plus de messes, ça laisse vraiment rêveur. Le nombre de messes valides offertes aujourd'hui est très très petit, hélas. Quel malheur. Alors avançons un petit peu dans ce texte. Donc le sang divin ne coule pas en enfer, donc on ne peut pas offrir une messe pour les âmes qui sont en enfer. On peut offrir une messe pour les âmes qui sont purgatoires, parce que purgatoire est dans le temps, l'enfer étant dans l'éternité. On ne peut pas offrir une âme pour une âme en enfer, pour une âme en enfer, de même qu'on ne peut pas offrir une messe pour une âme qui est au paradis, parce qu'elle n'est plus dans le temps. Donc allégoriquement, Lazare, au pied du riche, représente le Christ qui, par l'humilité de son incarnation, accepta d'écouter le cas des Juifs orgueilleux qui voulaient être nourris des miettes qui tombaient de la table du riche, recherchant les pauvres œuvres de justice qu'ils n'avaient pas voulu faire quand elles étaient en leur pouvoir. Trop orgueilleux pour agir. Ces œuvres légères qu'ils ne firent pas pour atteindre une bonne vie, mais seulement par chance et occasionnellement, sont comme des miettes qui tombent de la table. Cependant, le pauvre va se nourrir de ces miettes qui tombent de la table du riche. Et Dieu, dans sa miséricorde, va permettre que le pauvre soit nourri des miettes qui tombent de la table du riche. Donc les ulcères sont léchés par les chiens, représentent les souffrances du Seigneur, de sa passion, qu'il accepta pour nous dans la faiblesse de sa chair. Faiblesse de la chair, pardon. Les chiens sont les gentils, dire les non-juifs, considérés par les juifs comme des pécheurs impurs, mais qui, de par le monde, avec douceur et dévotion, lèchent les plaies du Christ dans le sacrement de son corps et de son sang. Très belle phrase des pères de l'Église. Lorsque je reçois la Sainte Eucharistie, et que mon cœur est en état de grâce, donc je nettoie en quelque sorte les plaies du Christ, j'embrasse les plaies du Christ et je les nettoie par mon acte d'amour, par laquelle je reçois la Sainte Eucharistie. Donc je lèche les plaies du Christ dans le sacrement de son corps et de son sang. Quelle phrase magnifique, c'est très poétique, mais c'est tout à fait exact, vous voyez. Donc pensons à purifier, justement, avant de toucher avec notre langue, de toucher le corps sacré de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on reçoit dans la Sainte Eucharistie, vérifions d'abord d'être en état de grâce. Certainement, les péchés les plus graves qui se puissent commettre, ce qu'on appelle le péché de sacrilège eucharistique. Le péché de sacrilège, c'est la profanation d'une chose sacrée. Qu'y a-t-il de plus sacré que la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces eucharistiques? Donc le plus grave de tous les péchés qu'on puisse commettre, certainement, c'est de recevoir la Sainte Communion, la Sainte Eucharistie en état de péché mortel. Le sein d'Abraham est la présence cachée de Dieu le Père en laquelle le Christ fut reçu après sa passion. Donc après sa passion, les 36 heures qui vont séparer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le vendredi saint, 3 heures de l'après-midi, jusqu'à la résurrection de Pâques, 36 heures, il va descendre dans les enfers, nous dit le credo, et ces enfers, et c'est le paradis d'Abraham dont j'ai parlé, c'est-à-dire le lieu, la salle d'attente pour tous les justes de l'Ancien Testament qui attendaient la réouverture des portes du ciel. Donc on peut déjà dire que notre Seigneur Jésus-Christ, au vendredi saint, au soir, a d'une certaine façon déjà transformé par sa présence. Il est descendu non pas avec son corps est resté dans le tombeau, attention, du vendredi saint jusqu'au dimanche de Pâques au matin, c'est son âme qui est descendue dans le paradis, dans l'enfer des patriarches, attention, pas les enfers, pas l'enfer des démons, bien sûr que non, mais l'enfer des patriarches, c'est-à-dire cette salle d'attente pour tous les justes de l'Ancien Testament. Et comme son âme était unie à sa divinité, donc le corps qui est resté dans le tombeau, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ était toujours uni à la divinité, mais son âme qui a quitté, séparé de son corps, parce qu'il était vraiment mort, donc il y avait véritable séparation entre le corps et l'âme, l'âme de notre Seigneur était elle aussi unie à la divinité. C'est cette âme unie à la divinité qui va descendre dans ce lieu pour consoler les âmes de tous ces patriarches qui attendaient depuis des milliers d'années, puisque entre la mort de le même... la mort de, on peut dire, ou même la création d'Adam et Ève, et l'arrivée de notre Seigneur, il s'est passé, difficile de donner une date, mais entre 5 et 7 000 ans, guère plus. Il ne faut pas imaginer, encore une fois, il ne faut pas croire les soi-disant scientifiques qui racontent n'importe quoi sur le sujet. La création de l'homme est relativement récente. On ne sait pas pour la création du monde. La Terre, quand a été créée la Terre, on n'en sait rien. Et l'Église ne s'est jamais prononcée sur ce sujet. Donc vous avez le droit de penser que la Terre a des millions d'années, si vous voulez. Personnellement, je ne le pense pas, mais vous avez le droit de le penser. Je ne peux pas vous condamner si vous pensez que la Terre a été créée il y a 25 milliards d'années. Ça ne me gêne pas, vous avez le droit de le faire. Par contre, la création de l'homme, création d'Adam et Ève, là, on est dans une période de temps tout à fait modeste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les premiers hommes ont été créés par Dieu il y a des millions d'années, pas du tout. De même qu'il ne faut pas croire que ce sont des petits protozoaires qui sont transformés en polytechniciens, pas du tout. Dieu a créé directement Adam et Ève, il les a créés d'ailleurs bien plus intelligents que nous sommes aujourd'hui, puisqu'il les a créés avec le don d'intégrité qu'on a perdu, et don de science infuse qu'on a également perdu. Donc ce saint d'Abraham est la présence cachée de Dieu le Père en laquelle le Christ fut reçu après sa passion. Voilà, donc nous allons arrêtez là, parce que ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Donc, si Dieu veut, je continuerai ce chapitre la prochaine fois. Donc, nous en sommes ici. Et nous allons terminer par une prière. Ah, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.